Salut à tous, au sommaire du volume 4 de la saison 2, nous aurons Yeez 1 Eternal sur PC, Rampage sur Master System, Frogbog sur Intellivision, Night Hunter sur Atari ST, Ladybug sur Arcade, Mazinger Z toujours sur Arcade, Speedball 2 sur Amiga, un reportage dans une salle d'arcade, et la démo signée du groupe Spaceball est intitulée The State of the Art, bienvenue sur Rétrovision. Quatrième volume de la saison 2 de Rétrovision. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission 100% rétro gaming. Et après le premier hors-série spécial arcade, nous revenons à la formule classique avec toutes les rubriques habituelles. Et nous ouvrons le bal des pixels avec un jeu d'action RPG qui remplace le traditionnel point and click, le bien nommé Yeez 1 Eternal. Certains d'entre vous doivent se souvenir de la version Master System, très prenante à l'époque, mais qui a bien mal vieilli. Et il aurait été dommage de ne pas mettre au goût du jour les aventures passionnantes d'Adol, le héros du jeu. Falcom nous a concocté un remake parfait, et dès les premières minutes de jeu, votre opinion sera faite. Les graphismes sont magnifiques et fort bien détaillés, l'animation est correcte et la bande-son est splendide. D'ailleurs, je vous laisse écouter quelques mélodies. Vous dirigez Adol Christine, qui aura pour mission de retrouver 6 livres éparpillés sur l'île de Yeez. Une fois réunis, les 6 bouquins libéreront un immense pouvoir, délivrant ainsi les villageois des méchants démons. Le gameplay est assez basique, le menu et les actions proposées sont limitées, de même pour les combats où l'on se contente de foncer sur les ennemis avec l'angle adéquat. Les lieux qu'il vous sera donné de visiter sont peu nombreux mais très intéressants. Il faudra y trouver des objets spéciaux pour pouvoir s'y aventurer. « Comme dans tout RPG, il y a une augmentation des points de vie, d'attaque et de défense qui se fait par rapport aux points d'expérience. Il est bien sûr possible d'améliorer tout ça en achetant ou en trouvant de l'équipement, épée, bouclier, armure, bague magique, etc. Les principaux dialogues importants sont illustrés magnifiquement, renforçant l'immersion dans le jeu. Et une fois l'aventure commencée, vous aurez envie d'aller jusqu'à la fin, tant ce RPG dégage une atmosphère enivrante. L'un des plus gros défauts de Yeez 1 est sa durée de vie, 8 heures en moyenne. Mais ce remake est tellement bon qu'il serait dommage d'y passer à côté. Et cerise sur le gâteau, pour tous les fans qui ont connu les premières versions, des scènes bonus ainsi que de tout nouveaux lieux ont été ajoutés. Bref, le bonheur total. Et si vous avez été charmé par cette chronique, ou si comme moi, vous n'aviez joué qu'au premier, eh bien sachez que cette saga dénombre 6 suites, dont la dernière est sortie sur PS2. Et cela ne m'étonnerait pas que l'on retrouve les aventures d'Adol dans Yeez 2 lors d'un prochain Rétrovision. Il était assez rare à l'époque de la Master System de pouvoir incarner un gros monstre d'échec qui détruit des grandes villes comme Godzilla. Mais avec Rampage, qui était sorti en 1988, cela était possible. Au début du jeu, vous pouvez choisir entre Liz, le lézard, George, le gorille, et Ralph, le loup géant, qui sont le résultat d'opérations scientifiques ayant mal tourné. Malgré leur nom sympathique, faut savoir qu'ils étaient humains à la base, il vous faudra détruire les plus grandes villes américaines en démolissant des immeubles et en écrabouillant tout ce qui bouge, hélicoptères, chars d'assaut, tout en prenant soin de grignoter des citoyens ainsi que des militaires. Les décors sont assez simplistes et la maniabilité laisse un petit peu à désirer. Ce sera toute une mission pour parvenir en haut d'un building. L'intérêt du jeu est extrêmement limité. Sans aucune tactique, vous devez abattre tous les immeubles pour pouvoir passer au niveau suivant. Une petite touche humoristique a été apportée au jeu. Les monstres font de drôles de têtes lorsqu'ils tombent dans le vide. Un mode de joueur en simultané est aussi disponible. Malheureusement, cela ne remonte en rien l'intérêt des parties qui deviennent rapidement lassantes le long de ces 50 niveaux. Malgré tout, Rampage a le mérite d'être original. D'ailleurs, différentes versions ont été adaptées, notamment sur GameCube en 2006, intitulée Rampage Total Destruction. Il y a des jeux dont on se souvient toute sa vie. Même avec un principe fort simple, certains avaient un je ne sais quoi de marquant et surtout d'émouvant. C'est le cas de Frog Bog sur Intellivision, sorti en 1982, aussi connu sous le nom de Frog and Fly sur Atari 2600. Ici, deux grenouilles compétitionnent pour celle qui engloutira le plus d'insectes volants au-dessus de leur nénuphar. Chaque insecte mangé rapporte des points, et plus ces derniers sont petits et rapides, plus leur valeur est grande. Le jeu comporte deux modes. Le premier est somme toute classique, vous devez sauter d'un nénuphar à l'autre sans risquer de tomber dans l'eau car la trajectoire est toujours la même. Il faut juste donner un bon coup de langue au bon moment. Et au bout d'un certain moment, épuisés par leur journée, nos deux batraciens prendront un repos bien mérité. Quant au deuxième mode de jeu qui se déroule de nuit, vous avez jusqu'à un coucher de lune, entre guillemets, pour avaler le maximum d'insectes possible. Sauf que là, c'est à vous de bien calculer les sauts, sinon c'est la baignade assurée. Rigolade garantie surtout à deux joueurs. Frogbog était un excellent jeu à l'époque, et il éveillera un grand moment de nostalgie à tous ceux qui y ont déjà joué. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez essayer une version plus moderne et le fun sera toujours au rendez-vous. Autre jeu où l'on incarne le rôle du BHA, avec cette fois-ci un personnage beaucoup plus célèbre que les trois monstres géants de Rampage, puisqu'il s'agit de Dracula lui-même. L'action prend place dans une ville médiévale remplie de chasseurs de vampires. Le but est de passer tous les niveaux que compte le jeu. Pour cela, il faudra récolter pas mal d'objets, comme des clés, des parchemins et des médaillons. À cela s'ajoute la gestion du temps, où il vaut mieux récupérer tous ces objets avant que le jour se lève. Mais pour ce faire, notre Dracula a la possibilité de se transformer en loup-garou et en chauve-souris, bien pratique pour rejoindre son cercueil avant que la nuit se termine. Toutes ces transformations consomment de l'énergie et sont donc limitées. Le principal moyen de survivre et de refaire le plein d'énergie est de sucer le sang des villageois. Écoutez au passage les bruitages minimalistes qui collent plutôt bien à l'action. Et heureusement, car il n'y a aucune musique qui accompagne vos escapades nocturnes. Les graphismes sont moyens, sans casser des briques, mais ils restent fidèles aux histoires de vampires. L'ambiance est pesante et on a tendance à se laisser prendre au jeu. La maniabilité demande un temps d'adaptation, surtout pour monter les escaliers. Mais une fois la technique acquise, cela reste un détail. Alors ne vous fiez pas aux apparences, Night Hunter est un jeu bien réalisé, très prenant, et l'idée d'incarner un vampire nous change un peu du traditionnel super-héros qui doit sauver l'humanité. Encore un jeu vidéo reprenant des insectes, Ladybug, sorti en 1981 sur borne d'arcade, est ce que l'on appelle dans le jargon un maze, qui veut dire labyrinthe. Mais à l'époque, on disait plutôt un jeu qui ressemble à Pac-Man. C'était plus simple. Vous dirigez une jolie coccinelle à travers un labyrinthe tout en évitant de vous faire dévorer par des prédateurs. Pour pimenter un peu les parties, la coccinelle est capable de pousser des barrières vertes bien pratiques pour vous camoufler ou pour fermer l'accès à vos poursuivants. De plus, il y a des lettres à attraper, si possible dans le bon ordre, et des têtes de mort qu'il faudra bien sûr éviter, mais vos ennemis n'hésiteront pas à foncer droit dedans, ce qui vous donnera plus de champ libre. Vous passerez au niveau suivant lorsque toutes les petites herbes auront été mangées. Mais il vaut mieux ne pas perdre de temps car un nouvel insecte sera libéré dès que le compteur aura terminé de faire sa rotation autour de l'écran. Ladybug reprenait un principe très répandu à l'époque, mais les petits plus ajoutés au gameplay ont su lui donner une touche d'originalité et un plus grand plaisir de jouer. Buggy! Oui, c'est bien lui, vous l'aurez reconnu, notre formidable robot des temps nouveaux, Goldorak. Et nous devons remercier Pan Presto qui nous a réalisé une superbe adaptation haut en couleur avec des graphismes fidèles au dessin animé. Ceci dit, en passant, Pan Presto est le spécialiste des adaptations de dessins animés sur bande d'arcade. C'est à cet éditeur que nous devons entre autres DBZ et Sailor Moon. Ce shoot'em up vertical porte le nom de Mazinger Z, et les fans de cette saga mécanique auront reconnu les trois robots qu'il est possible de piloter. Mazinger Z, piloté par Alcor, de son vrai nom Koji Kabuto, Great Mazinger, et bien entendu Grandizer, aussi connu sous le nom de Goldorak. Chacun dispose d'un armement à faire fuir plus d'un Golgoth. Outre le tir normal, vous avez aussi un tir secondaire de courte portée qui détruit les attaques ennemies. Les bombes qui détruisent tous les vaisseaux à l'écran, mais vous avez intérêt à ne pas être épileptique car ça flash pas mal. Et pour finir, le tir concentré que l'on pourrait assimiler à l'attaque spéciale, car vous verrez les légendaires Astéro H découper l'acier le mieux trempé de tous ces vilains robots. Chaque robot a son propre mode de tir, large, frontal ou en V. Il est aussi possible de collecter des power-up, comme par exemple des pastilles rouges qui donnent un tir différent suivant le vaisseau que vous pilotez. Les graphismes sont magnifiques, ils respectent bien le dessin animé d'origine et chaque sprite ne manque pas de détails. Les décors sont variés et les boss de fin de niveau sont spectaculaires et remarquablement animés. Parlons un peu des musiques, toutes instrumentales, de bonne facture et directement reprises des séries originales, ce qui renforce le côté nostalgique. Mazinger Z enchantera autant les amateurs du dessin animé que les novices du shoot'em up. Mais si vous êtes les deux en même temps, fans de Goldorak et de shooter, vous resterez scotché derrière votre écran pendant des heures en fredonnant les musiques des génériques de ce passionnant dessin animé.
Que la lumière, qui est-il, d'où vient-il, formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il, d'où vient-il, ce terrible géant des nouveaux temps. Le grand Goldorak.
Le speedball est un sport collectif mélangeant le handball avec une grande pincée de distribution de paloches à volonté. Vous devez mener une équipe traînant au tréfonds de la dernière division du championnat jusqu'à la gloire. Le jeu se divise en deux phases. Une phase de gestion des joueurs, avec amélioration de leurs caractéristiques comme l'attaque, la défense, l'endurance, la vitesse. Vous avez aussi la possibilité, lors de cette phase, d'acheter des joueurs plus performants. La deuxième partie se passe sur le terrain, où vous affrontez les équipes adverses. Lors d'un match, il y a plusieurs façons de remporter des points. En marquant des buts, en allumant des panneaux lumineux en forme d'étoile, en faisant rouler la balle sur des rampes et en envoyant, avec beaucoup d'esprit sportif, les membres de l'équipe adverse à l'hosto. Les robots infirmiers se chargent de la livraison. Des bonus apparaissent sur le terrain de jeu pour aider et donner l'avantage à celui qui les récupère. Vous pouvez aussi ramasser de l'argent sur le terrain qui vous permettra d'améliorer les capacités et les performances physiques des joueurs de votre équipe. Le championnat se fait avec plaisir, mais l'intérêt du jeu devient infini lorsqu'on invite un ami ou une amie et qu'on se fait des parties à deux. Ce jeu des Bitmap Brothers, datant du début des années 90, n'a pas pris une ride et mériterait d'être adapté sur des consoles nouvelle génération qui manquent cruellement de ce genre de jeu. Une version PC a vu récemment le jour en 2008, mais le passage à la 3D n'a visiblement pas emballé les joueurs qui ont connu l'original en 1990. On commence cette sélection flipper avec un vieux de la vieille, sorti en 1964, fabriqué par Gottlieb, j'ai nommé Happy Clown, un flipper qui possédait un compteur de points à rouleau. Ce système marquait la mémoire des joueurs les plus nostalgiques. Votre score augmentera avec un bruit de caisse enregistreuse en effectuant des tirs précis sur les cibles colorées. Happy Clown est une table dont on fait vite le tour et les parties deviennent vite répétitives. Mais pour les puristes, le charme opère toujours et les décors de cirque nous rappellent forcément notre tendre enfance. Inutile de présenter la famille Simpson, ce dessin animé hyper connu a été adapté à toutes les sauces et à toutes les modes, et les flippers n'échappent pas à la règle. Il y a eu même une table plus récente intitulée Simpson Pinball Party. Celle présentée en ce moment a été mise sur le marché en 1991 et il était impossible de la louper de par ses couleurs vives et tape à l'œil. Même si les règles sont simples, il faut faire exploser le jackpot avec le plus de points possible, ce flipper a ravi les fans de la série. Direction les années hippies, avec une table sortie en 1978 par Bally the Harlem Globetrotters. Ce flipper met en vedette la célèbre équipe de basket américaine et arbore les mêmes couleurs dans un style très étoilé et funky. Petite particularité, les deux flips de gauche sont presque superposés l'un au-dessus de l'autre et c'est avec eux que vous devez abattre toutes les cibles blanches pour espérer marquer un panier. Attention tout de même de ne pas laisser filer la boule entre les deux flips, car tout sera à recommencer. Et là, croyez-moi, il y a de quoi perdre la boule. Mary Shelley's Frankenstein est un flipper signé Sega en 1995, basé sur le film du même nom. Le film est quant à lui une adaptation du livre de Mary Shelley, publié pour la première fois en 1818. Avant de lancer votre première boule, vous pouvez choisir deux musiques de fond. Le flipper de gauche choisira la bande originale du film. Le flip de droite sélectionnera la musique composée par Edgar Winter intitulée Frankenstein. Pour 1995, la table manque cruellement de rampe. Le concepteur aurait pu se fouler un peu plus. Ceci dit, la difficulté est moyenne, idéale pour les néophytes des machines à boules. Il aura fallu attendre le volume 4 de la saison 2 pour enfin revoir une salle d'arcade. Et oui, il y en a toujours, et même qu'elle se paie le luxe de nous proposer trois magnifiques flippers. The Simpsons Pinball Party, la table dont je vous ai parlé juste avant dans la chronique Flipper, Terminator et Harley Davidson. Juste à côté se trouvent Virtua Cop 3 et Tokyo Cop, Special Police Reinforcement. War Z, un autre jeu de tir qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs simultanément. Ici nous avons Battle Gear 3 de Taito avec un double cockpit. Initial D version 2 de Sega. Encore un jeu de bagnole Maximum Tune 2 de Namco. Là vous pouvez voir Crazy Taxi développé par The Hitmaker et publié par Sega. Une bande que nous avons déjà vue, Extreme Hunting 2 de Sega USA. Police 911-2 de Konami. Et il y a aussi les bons vieux classiques comme The House of the Dead 3 et une simulation de pêche qui sort de l'ordinaire, Bass Fishing, développée par Sega America, incluant une jolie canne à pêche. Hair Tricks, un jeu de skateboard que je n'avais jamais vu. Ici, un cinéma dynamique à deux places couchées. Ce genre de borne était quand même très à la mode au milieu des années 90. Ah, un autre jeu de tir signé Sega que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Let's Go Jungle, pouvant se jouer à deux simultanément avec une cabine assise très confortable et surtout un écran plat sans aucun reflet, en XGA si ma mémoire est bonne, de toute beauté. On continue ce petit tour d'arcade, suivez le guide avec une simulation de poids lourd, c'est 18 Wheeler. Dans le même style mais un peu moins imposant, voici Route 66. Ah là, c'est le jeu télévisé phare du moment que tout le monde adore. Le banquier, connu sous le nom de Deal or Not Deal, c'est tellement populaire que vous voyez, il a eu le droit même à sa conversion arcade. Dans cette borne, trois joueurs peuvent faire la course simultanément dans Arctic, une simulation de motoneige. Time Crisis 4, un grand classique des salles d'arcade que l'on ne présente plus. F355 Challenge est une borne bien luxueuse comprenant trois écrans, comme vous pouvez le voir, et vous serez aux commandes d'une sublime Ferrari. Alors si on devait faire une petite conclusion, on pourrait dire que non, les salles d'arcade ne sont pas mortes. Elles sont certes beaucoup moins nombreuses, que dans les années 80 et 90, mais vous pouvez en croiser ça et là, dans des cinémas, des centres commerciaux ou dans des complexes comme les centres Sega. Et pour les plus nostalgiques d'entre nous, il faut se rendre à l'évidence que 95% des bornes que vous allez croiser auront une arme en plastique ou un volant. En d'autres termes, il s'agira de jeux assez récents. Oubliez donc l'espoir de voir Donkey Kong Junior, Zaxxon ou Galaga, et même Double Dragon ou Street Fighter 2, à moins d'aller dans des salles spécialisées comme par exemple les centres Sega, baptisés la tête dans les nuages.